Le journal, Sarah Guibaudeau. Bonjour Sarah.
Bonjour. La réforme du Code du travail se précise. Le gouvernement veut encadrer les dommages et intérêts au prud'homme et favoriser les séparations à l'amiable. Le projet de loi sur le recours aux ordonnances doit être adopté cette semaine. Les députés vont pouvoir partir en vacances après une session agitée. Tiens, mais où est passé Richard Ferrand ? 10 morts, des barricades et des bureaux de vote incendiés. Image d'un Venezuela qui s'enfonce encore un peu plus dans le chaos. Selon le pouvoir, le scrutin d'hier est pourtant un succès, déjà avec plus de 40% de participation. À défaut de passer sous pavillon italien, les chantiers navals de Saint-Nazaire peuvent-ils construire un Airbus européen de l'armement naval ? Paris et Rome cherchent un terrain d'entente. Nous retournerons à la gare Montparnasse où les voyageurs se massent devant les panneaux d'affichage. Le trafic est normal pour les trains régionaux et intercités, mais les TGV vers la Bretagne et le sud-ouest se font attendre. La SNCF promet pourtant de rétablir le trafic dans la journée. Dans ce journal, nous reviendrons sur la défaite des footballeuses françaises face à l'Angleterre. Les Bleus font leur valise avant les demi-finales de l'Euro. Et puis jongler avec des plumes, l'un de nos cirques préférés fait ses adieux. Heureusement, ils vont durer encore 2 ans. La politique culturelle du gouvernement, vous allez l'analyser à 8h20, Pierre, avec votre invité, l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang.
Et qui est aujourd'hui président de l'Institut du Monde Arabe, ancien ministre de la Culture et de l'Éducation. On parlera aussi avec lui des projets du gouvernement en matière d'éducation. Et vos questions pour Jack Lang à 9h20 dans Interactive. Il faut appeler dès maintenant le 01 45 24 7000.
France Inter. C'est les dernières semaines avant les vacances parlementaires pour préparer la rentrée et la réforme du Code du travail. Députés et sénateurs vont tenter de se mettre d'accord aujourd'hui en commission mixte paritaire sur le projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnance. Une réforme dont les contours se précisent. Le gouvernement a dévoilé son projet pour simplifier, sécuriser, dit-il, les licenciements. Cela passe par l'instauration d'un barème pour les indemnités versées aux prud'hommes, des délais plus courts pour contester un licenciement et des mesures pour encourager les ruptures conventionnelles, Laurent Kramer.
Il y a aujourd'hui trop de contentieux sur les licenciements en France, estime le ministère du Travail. Un licenciement, aujourd'hui, une chance sur 5 de se retrouver devant les prud'hommes. Il faut donc désengorger les tribunaux et développer la culture de la conciliation, conclut le ministère. Le gouvernement souhaite alléger la fiscalité sur les ruptures conventionnelles. Il est aujourd'hui fiscalement plus avantageux de percevoir des indemnités devant les prud'hommes exonérées d'impôts qu'après une conciliation. Il faut donc mettre fin à cette prime fiscale au contentieux. Avance l'entourage de la ministre. Bercy calcule le coût d'une exonération fiscale supplémentaire sur les indemnités versées à l'amiable. Le gouvernement estime enfin que les modalités de licenciement et les ruptures conventionnelles restent mal connues des employeurs et des salariés dans les petites et moyennes entreprises, ce qui augmenterait au final, estime le ministère, les contentieux. Le gouvernement souhaite donc mettre en place un nouveau document simplifié pour les procédures à suivre en cas de licenciement.
Cette session extraordinaire restera marquée par les débats un peu chaotiques de la semaine dernière sur la moralisation de la vie publique. Les nouveaux députés La République En Marche, novices en procédure parlementaire, ont été chahutés. D'autant que leur président de groupe, Richard Ferrand, a plutôt brillé par son absence. Il est vrai qu'il lui a été difficile de se mettre en avant sur ce texte alors qu'il est sous le coup d'une enquête pour une opération immobilière avec les mutuelles de Bretagne. Mais cette situation ne pourra pas durer, Karine Bécard.
À l'Assemblée, la plupart des députés de la majorité préfèrent éviter le sujet.
Est-ce qu'on peut faire... prendre un avion, vraiment. Juste une toute petite
question. Est-ce que Richard Ferrand est suffisamment présent ? Pascal Boyer est député La République En Marche depuis maintenant 6 semaines et elle a osé nous raconter ce qui se passe.
Certes, il n'est pas forcément présent physiquement, mais on sent bien qu'il y a une présence quand même. Il y a des mails qui sont envoyés, il y a des messages. Je pense que c'est important de comprendre qu'il est là, qu'il maîtrise quand même les troupes. Hein. C'est pas une fronde, c'est pas avec un petit peu de recul, ça va s'arranger. Et puis surtout avec quelques jours de vacances, je pense que tout le monde va être plus serein au début septembre.
Pour l'instant, l'entourage du Premier ministre estime que Richard Ferrand a mal vécu sa sortie du gouvernement. Il faut donc lui donner un tout petit peu de temps. Christophe Castaner, le ministre chargé des relations avec le Parlement.
On fera On va laisser passer quelques semaines, si vous voulez, le bilan de l'hyperprésence de tous les présidents de groupe. Et vous verrez qu'au fond, Richard Ferrand sera certainement parmi les plus actifs à l'Assemblée nationale.
Cela dit, Richard Ferrand doit tout de même rapidement évoluer avant la prochaine session, celle de la rentrée, s'il ne veut pas devenir le problème d'Emmanuel Macron, qui serait alors obligé de s'en séparer.
8h05, le journal Sarah Guibaudot. Sarah, au Venezuela, le scrutin d'hier a été marqué par de nouveaux affrontements entre les manifestants et la police.
Gaz lacrymogène et balles en caoutchouc normalement, mais pas toujours. Contre cocktails Molotov et barricades, 10 personnes ont été tuées au cours du week-end, dont 2 adolescents de 13 et 17 ans, ce qui porte à 120 morts le bilan de 4 mois de mobilisation contre le président Maduro. Nicolas Maduro voulait une nouvelle assemblée constituante pour remplacer l'Assemblée nationale dominée par l'opposition. Il a désormais les mains libres au Parlement et même si l'opposition dénonce un nouveau pas vers la dictature, le pouvoir revendique, lui, une forte participation. À Caracas, notre envoyée spéciale Sandrine Eto'o-Handeg.
Les résultats sont tombés à 1h du matin, heure locale. Plus de 8 millions de Vénézuéliens ont élu l'Assemblée nationale constituante, a annoncé le Conseil national électoral. Le pays compte 19 millions d'électeurs. Les 545 membres de cette Assemblée, qui va démarrer ses travaux la semaine prochaine, auront une légitimité populaire, a déclaré Nicolas Maduro lors de son discours de victoire devant ses partisans. Il a renouvelé son appel au dialogue à l'opposition. Cette dernière, qui n'a pas présenté de candidat et a boycotté le scrutin, dénonce des fraudes massives. Elle appelle de nouveau à manifester aujourd'hui. Alors que les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions à l'encontre du Venezuela, plusieurs pays de la région ont déclaré ne pas reconnaître les résultats de l'élection. Après la Colombie et le Panama, le Pérou et l'Argentine ont décidé de faire la même chose. Caracas, Sandrine Eto'o-Handeg, France Inter.
De leur côté, les États-Unis menacent le Venezuela de nouvelles sanctions. Au Sénégal, les législatives d'hier se sont déroulées dans le calme, mais après les problèmes de cartes d'identité pas livrées à temps, ce sont les fortes pluies qui ont conduit à repousser la fermeture de certains bureaux et retardent donc le dépouillement. La participation s'élève à 54%, chiffre officiel. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, va tenter demain à Rome d'apaiser ses homologues italiens. Nos voisins digèrent mal la nationalisation, même temporaire, des chantiers navals de Saint-Nazaire qui était promis à leur entreprise publique Fincantieri. Mais la proposition française de poursuivre les discussions pour peut-être construire un groupe naval d'armement européen pourrait recevoir un meilleur accueil. À Rome, Xavier Sartre.
Les dernières déclarations de Bruno Le Maire n'ont pour l'instant pas rencontré beaucoup d'écho en Italie. Le gouvernement italien, par la voix de ses ministres de l'économie, a surtout fait entendre son exaspération envers la France, coupable de traiter Fincantieri moins bien que les Coréens et accusé une fois de plus d'arrogance. Pourtant, samedi, alors que le ministre du Développement économique réaffirmait que Rome ne reculerait pas d'un millimètre sur le dossier STX, sa collègue de la Défense déclarait que ce serait dommage de laisser passer une telle occasion de faire avancer le dossier de la défense européenne. Roberta Pinotti soulignait que Français et Italiens, ceux de Fincantieri justement, collaboraient déjà pour les FREM, les frégates multimissions. Or, le site de Saint-Nazaire est tout indiqué pour développer des activités militaires, comme c'est d'ailleurs déjà le cas. La ministre a même évoqué que les Allemands pourraient être de la partie, puisque Rome et Berlin collaborent de leur côté à la fabrication de sous-marins. Ces déclarations sont donc apaisantes et ne sont pas si éloignées de ce que Bruno Le Maire devrait proposer aux Italiens. Les bateaux de guerre pourraient ainsi ramener la paix entre les deux gouvernements. Rome, Xavier Sartre, France Inter.
8h09, la SNCF, Sarah Guibaudot, prévoit encore un trafic allégé ce matin vers la Bretagne et le Sud-Ouest.
C'est la conséquence d'une panne d'aiguillage encore assez mystérieuse qui a paralysé hier la gare Montparnasse. La SNCF explique qu'elle n'a pas voulu prendre de risques. Elle assure qu'elle a réussi à acheminer hier 85% des voyageurs prévus avec pas mal de retard. Des vacanciers sont arrivés à Paris au milieu de la nuit. Laura Lavenne, on vous retrouve en direct de la gare Montparnasse où les voyageurs guettent encore les trains. Ce matin.
Il y a du mieux, oui. C'est-à-dire que là où on pouvait lire train à l'heure, train supprimé, on peut désormais voir le temps de retard jusqu'à 40 minutes pour certains trains. Les agents SNCF en gilet rouge sont enfin arrivés sur place. Ils tentent tant bien que mal de rassurer les voyageurs. Mais comparé à ce matin 7h, il y a encore plus de monde en gare. Résultat, les files d'attente s'allongent devant les points information. Florence fait la queue depuis 20 minutes déjà.
Notre train a été supprimé et on essaie de trouver une autre liaison. Bah, c'est désolant parce qu'on est parti très tôt de l'hôtel pour avoir notre correspondance. Et puis la personne qui va nous louer l'appartement nous attend. Et, enfin, ça entraîne tout un tas de convenances.
Pour ceux qui souhaitent échanger leur billet, la SNCF leur suggère plutôt d'entrer dans le train de leur choix avec leur titre de transport une fois que le trafic aura repris. Et pour ceux en revanche qui n'ont pas encore réservé leur place, la billetterie reste fermée jusqu'à nouvel ordre.
Merci Laura. Laura Lavenne en direct de la gare Montparnasse. Les salariés de GMES prennent la route de Poitiers ce matin, certains en vélo depuis la souterraine, 110 km. Le tribunal de commerce doit normalement valider le plan du seul candidat à la reprise. L'emboutisseur GMD a obtenu des garanties des clients Renault et PSA et des aides financières des constructeurs et de l'État. Mais il ne gardera que 120 des 277 salariés. Cécile Bourgeon, la maire de la petite Fiona a tenté samedi soir de se suicider en avalant des comprimés. Incarcérée à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, elle a été hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Cécile Bourgeon avait été condamnée à 5 ans de prison, notamment pour non-assistance à personne en danger, mais acquittée pour la mort de la fillette. Envoyer des exploitations minières dans l'espace, c'est encore de la science-fiction, mais pour combien de temps? Aux États-Unis et désormais aussi au Luxembourg, on s'y prépare pourtant, en quelque sorte. Le Grand-Duché, place financière, vient de voter une loi dans ce sens, Sophie Bécherel.
Le traité de l'espace de 1967 interdit à quiconque de s'approprier un corps céleste. La loi luxembourgeoise autorise l'exploitation de ce qu'il y a dedans, c'est toute la nuance. Pour le Grand-Duché, l'entreprise doit simplement avoir un bureau sur place et prouver son honorabilité. 50 sociétés se sont déjà manifestées, 5 sont déjà agréées. De quelles ressources parle-t-on? C'est ce qui reste à définir. Des minerais rares et chers comme le platine, peut-être, mais rien ne dit que les astéroïdes en soient truffés. L'idée première serait plutôt de servir de pompe à essence pour les satellites et les missions spatiales, car tout acheminer depuis la Terre est très coûteux. Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l'Agence spatiale européenne, a conseillé le Luxembourg sur ce dossier.
Pour une très grande partie de ces ressources spatiales, on les transformera et on les utilisera sur place, à commencer par le carburant, puisque les astéroïdes recèlent à la fois de l'eau, du carbone, des métaux, une gamme assez importante de matières premières. On n'utilisera peut-être pas les ressources sur les astéroïdes ou proches des astéroïdes, mais on pourra ramener les ressources dans un camp de base qui ensuite pourrait être le point de départ des missions d'exploration.
Certes, il va falloir prendre des risques, investir sans récolter les bénéfices avant 20 ans au moins, mais selon Jean-Jacques Dordain, les entreprises minières classiques auraient tort de se priver de ce nouveau marché. Pour lui, une synergie entre le secteur minier et le secteur spatial vaut mieux que la concurrence.
Camille Lacour va pouvoir payer sa tournée dans son nouveau restaurant parisien. Hier, le nageur tricolore a mis fin à sa carrière de la plus belle des manières en remportant dans le bassin hongrois un 5e titre mondial sur 50 mètres d'eau. Cette médaille d'or cache toutefois un bilan mitigé pour l'équipe de France de natation où la relève n'est pas encore assurée. Pour elle, c'est terminé. Une nouvelle fois à la porte des demi-finales, les footballeuses françaises n'ont pas brillé hier devant les Anglaises qui ont gagné en quart 1-0. 7 euros aux Pays-Bas a été très décevant, Bertrand Queneut.
Battue pour la première fois depuis plus de 40 ans par l'Angleterre, l'équipe de France sort de l'Euro par la petite porte et la tête basse. Bilan, 4 matchs, une seule victoire à l'arraché contre l'Islande et seulement 3 buts marqués uniquement sur coup de pied arrêté. Les tricolores ont non seulement été l'ombre d'elles-mêmes dans le jeu, mais elles ont surtout été inefficaces devant les cages adverses durant toute la compétition.
Ce que je retiens surtout, c'est qu'on s'est créé des occasions.
Olivier Échouafny le reconnaît, mais le sélectionneur relativise et ne veut pas parler d'échec alors même que l'objectif fixé par la Fédé n'est pas atteint.
Depuis 10 mois, il faut savoir que c'est notre première défaite. Donc notre série s'est arrêtée ce soir, peut-être au mauvais moment. Mais écoutez, l'idée c'est que ça reparte encore de plus belle.
Déçus pour ne pas dire abattus, les joueuses tentent pour leur part de comprendre, Amandine Henry notamment.
Le foot évolue de mieux en mieux. Et on peut voir les petites équipes auparavant, maintenant viennent titiller les plus grosses nations. On peut le voir avec l'Allemagne qui a été ici éliminée. Voilà, c'est à nous de progresser, de continuer à travailler et d'analyser ce qui n'a pas été.
Les filles auront 2 ans pour le faire. 2 ans avant l'organisation en France de la Coupe du Monde où elles tenteront de briser enfin la malédiction des quarts de finale. Elles qui sont déjà sorties à ce stade de la compétition lors du dernier mondial et aux Jeux Olympiques l'an dernier.
Et les demi-finales du mondial de foot féminin verront s'affronter jeudi le Danemark et l'Autriche et les Pays-Bas à l'Angleterre. Le Cirque Plume a décidé que ce serait sa dernière saison. C'est le titre en forme d'adieu de son spectacle présenté aux Nuits de Fourvière à Lyon. L'aventure commencée à Besançon en 1984 s'achève ainsi comme elle a commencé, Stéphane Capron, tout en poésie.
Pendant plus de 30 ans, le Cirque Plume a puisé son inspiration dans son environnement naturel, la Franche-Comté. Ce dernier opus est un voyage dans une forêt durant les 4 saisons de l'année. Un spectacle conforme à la philosophie de vie de son créateur, Bernard Cudelac.
Les fondateurs, on habite dans le Jura, on habite à côté des forêts, on habite à la campagne. C'est un peu bizarre, mais on n'a pas fait notre carrière, notre cirque, nos spectacles avec l'urbain, mais avec notre amour de la vie, du soleil, du vent et de la forêt.
Le Cirque Plume a totalement renouvelé les numéros pour ce dernier spectacle avec des artistes venus du monde entier. Un jongleur de plumes, une contorsionniste incroyable. Et puis, il y a la poésie et la mélancolie de Bernard Cudelac qui va tirer sa révérence.
On a toujours fait à notre main. On a fait comme on voulait, nos spectacles comme on voulait. C'était bien pour nous dire, à un moment donné, on va avoir plus de 65 ans, quand on va arrêter, ben, ce sera le moment d'arrêter. Et on le fait, on le décide et tout ça. Et place aux jeunes. On est une société, les jeunes, ils ont du mal à trouver leur place et les vieux, ils s'accrochent. Ben, nous, on ne va pas s'accrocher.
Ce spectacle va sillonner la France pendant au moins 2 ans avant que le Cirque Plume ne range définitivement son chapiteau.
Et à Lyon, la dernière saison du Cirque Plume, c'est jusqu'au 5 août, Parc de Paris. Les touristes britanniques seraient-ils des escrocs ? En Espagne, les hôteliers se plaignent d'une épidémie de plaintes pour de fausses intoxications alimentaires destinées à se faire rembourser le prix du séjour. Plus de 10 000 plaintes cette saison. L'association britannique des agents de voyage a même lancé une campagne de sensibilisation. Attention, dit-elle à ses clients, si vous continuez à tricher, les vacances finiront par coûter plus cher.